Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle tout à fait particulière. L'affaire Geneviève l'Ermite. En 2007, cette mère de famille tue et égorge ses 5 enfants à Nivelles, en Belgique. Était-elle ou n'était-elle pas en état de démence au moment des faits? Les psychiatres belges ont beaucoup tergiversé, vous le verrez, avant de décider qu'elle était responsable de ses actes et de la renvoyer devant la cour d'assises. Thomas Oudouard m'a aidé à écrire ce récit. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La scène inaugurale de cette histoire terrible se déroule le 28 février 2007 dans un quartier tranquille de Nivelles, en Belgique wallonne. Aux alentours de 14h, un habitant trouve 2 enveloppes dans sa boîte aux lettres. La première contient des bijoux, en vrac, la seconde une lettre adressée à sa petite amie Valérie. Il l'ouvre, la lettre est signée d'une voisine qu'il connaît bien, Geneviève. Geneviève Mokadem. C'est la meilleure amie de Valérie. Il commence à la lire. Et dans la seconde où il comprend, il se met à courir vers chez Geneviève. Il est paniqué. Ma chère Valérie, il n'y a pas de solution à mon problème. J'ai pris ma décision de partir avec les enfants. Et pour toujours. Un jour tu verras, on se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Je te demande pardon, ton amie Geneviève. J'ai pris la décision de partir avec les enfants, pour toujours. Le voisin, arrivé soufflé devant la maison de Geneviève, il est à quoi 400 mètres. Les secours sont déjà là, des ambulances, des voitures de police. C'est trop tard.
Vous savez ce qui s'est passé?
Ah oui, c'est pas joli joli, hein. 5 enfants égorgés, et apparemment, c'est la mère qui a fait ça. Geneviève Mokadem a égorgé ses 5 enfants. Et elle s'est elle-même lardée de coups de couteau. Mais elle est vivante. Elle a raté son suicide. C'est elle-même qui a appelé la police 20 minutes plus tôt.
Allô? J'ai fait quelque chose de très grave. J'ai tué mes enfants. J'ai voulu me suicider, mais j'y arrive pas. Je veux mourir.
Les policiers l'ont découverte baignant dans son sang, à demi inconsciente.
Madame ! Madame, vous nous entendez ?
À cette heure-ci, elle est à l'hôpital dans un état critique. Poumons perforés. On ne va pas pouvoir l'interroger tout de suite. Dans la maison, c'est un carnage. Les 5 enfants sont couchés chacun dans leur lit. Yasmine, 14 ans, Nora, 12 ans, Myriam, 10 ans, Nina, 8 ans, et le petit dernier, Mehdi, 4 ans seulement. Elle les a égorgés un par un, et pas forcément dans leur lit d'ailleurs, parce qu'il y a du sang dans le bureau et dans la salle de bain du 2e étage. Les légistes examinent les corps. Les mains des gamins portent des traces de lutte. Les pauvres gosses se sont défendus. Ils se sont protégés de leur mère. Et le père? Il est où, le père? Le père, il s'appelle Bouchaïb Mokadem. Il était au Maroc, à Agadir, chez sa mère. Il revient justement aujourd'hui. Il va falloir lui annoncer la nouvelle à sa descente d'avion. Sa femme a égorgé leurs 5 enfants. Geneviève Mokadem, qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va appeler Geneviève l'Ermite, de son nom de jeune fille, comme si effacer son nom de mère rendait le drame plus supportable. Geneviève l'Ermite, donc, est mise en examen 6 jours plus tard pour assassinat. À partir de maintenant, il reste à comprendre comment une maman a pu égorger de sang-froid ses 5 enfants, un par un, alors qu'ils se défendaient, qu'ils tendaient leurs petits bras pour se protéger. Maman, maman, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? La suite va nous faire entrer dans l'intimité d'un drôle de couple. Le père est complètement perdu, il est paumé. Et ce sont les policiers qui lui rappellent qu'il faut organiser les obsèques des enfants.
Oui,
Vous avez raison. Je ne sais pas quelle disposition je dois prendre. Je peux vous demander quelque chose?
Dites-moi, monsieur Mokadem.
Vous pouvez demander à leur mère où elle veut qu'ils soient enterrés. Je ferai ce qu'elle voudra.
Les policiers font passer le message. Elle veut qu'ils soient enterrés au Maroc, dans la tradition musulmane, dans le berceau de la famille Mokadem, au cimetière de Ben Sergao, près d'Agadir. Le père finit même par leur trouver une place dans le carré des martyrs. Il le mérite, au fond. Et après, il s'effondre, il s'enfonce dans la dépression, au point qu'il faut l'hospitaliser en psychiatrie pendant 3 mois. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est une femme qui va diriger cette enquête, la juge Anne-Françoise Destrée. Pour l'instant, pour éclairer cette affaire, elle n'a sur son bureau que la lettre que Geneviève a écrite à sa voisine avant de passer à l'acte. C'est tout. Je vous en ai lu un extrait. La voici en entier. Vous allez voir, c'est important, car Geneviève y livre une piste. « Ma chère Valérie, j'ai pris ma décision de partir avec les enfants et pour toujours. Un jour tu verras. On se reverra, mais je ne regrette pas cette solution finale. Boujaïb se montre sourd et aveugle, et malgré ça, il se complaît dans cette situation. Michel est un salopard qui m'a pourri la vie, volé mon intimité avec mes enfants et mon mari. Je te demande pardon, ton ami Geneviève. » Boujaïb, vous l'avez compris, c'est le père. Et Michel, alors? Qui est ce Michel dont elle parle? Eh bien, c'est son beau-père, Michel Scar. Il est médecin en Belgique et il a adopté Bouchaïb quand il avait 14 ans. Il allait souvent en vacances au Maroc, il a connu la famille Mokadem qui était en difficulté, il s'est pris d'affection pour leur fils Bouchaïb, il l'a fait venir en Belgique et il l'a adopté. Mais alors, que veut dire Geneviève quand elle écrit « Michel est un salopard qui m'a pourri la vie et volé mon intimité avec mes enfants et mon mari ?» Dès le premier interrogatoire, la juge pose la question à Geneviève l'ermite.
Madame, dans votre courrier, adressé à votre amie Valérie, vous évoquez Michel Scar en disant qu'il a gâché votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ah ben, je peux vous dire que c'est une personne malsaine. Il a profité de ses facilités financières pour nous asservir, mon mari, mes enfants et moi.
A-t-il exercé des pressions sur vous? A-t-il été violent physiquement? A-t-il cherché à vous manipuler? Quel a été son rôle exact?
Je vais vous dire ce que je pense. Michel Scar, là, c'est un homosexuel refoulé. Il est amoureux de mon mari. Il est amoureux de Bouchaïb, qui est son propre fils adoptif. C'est un être malsain.
Geneviève aurait donc égorgé ses 5 enfants parce que son beau-père était amoureux de son mari. Ça serait donc ça, le mobile. La juge commence donc à se rencarder sur cette histoire d'adoption. Et elle découvre qu'au tout début de l'histoire, le docteur Scar s'est d'abord occupé du grand frère de Bouchaïb, Kibir. Ils étaient amis. Mais amis, comment? En gros, le grand frère a-t-il été l'amant du docteur Scar? Certains le suggèrent, mais là on bute sur un os, Kibir est mort. Donc, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du docteur pour Bouchaïb est venu plus tard. Le gamin marchait bien à l'école, il n'avait pas de père, il était un peu perdu. C'est la mère, Mokadem, qui a demandé à Michel Scar de s'en occuper. Et donc, il l'a ramené en Belgique et finalement, il l'a adopté. Et ce que découvre la juge, c'est que le docteur Scar vivait avec les Mokadem dans la maison de Nivelles. Il leur avait laissé le rez-de-chaussée, le premier étage, et lui vivait au deuxième. Et c'est lui qui payait tout. Il tenait la famille à bout de bras. Et on comprend, maintenant qu'on sait tout ça, le ressentiment de Geneviève vis-à-vis de son beau-père. On comprend qu'elle ait été agacée de l'avoir 24-24 au deuxième étage et de vivre à ses crochets. Et sans doute était-elle peinée de voir son mari accepter cette situation de dépendance. Mais pour autant, est-ce que cela suffit à expliquer qu'elle ait égorgé ses 5 enfants? Non! À part ça, si vous cherchez la vérité, je vous conseille d'éviter de lire le journal. Ouh là 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 là. Il s'en écrit des bêtises. Il s'écrit par exemple que Geneviève aurait été contrainte par son mari de se convertir à l'islam. Ah, l'islam, responsable de tous les maux. C'est faux. Geneviève s'est effectivement convertie à l'islam quand elle a épousé Bouchaïb. Mais elle l'a fait de son plein gré et même de sa propre initiative pour faire plaisir à sa belle-mère. Rien de plus. On peut tordre cette affaire dans tous les sens. L'islam n'y est pour rien. On lit aussi dans les journaux que Geneviève vivait isolée avec ses 5 enfants, qu'elle ne sortait jamais, qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle ne recevait jamais personne. Et ça, ça semble vrai. Mais s'est-elle isolée elle-même ou y a-t-elle été forcée? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc vient le moment où il faut bien interroger le docteur Scar, qui est encore sous le choc, évidemment. Docteur Scar, nous comprenons votre peine, mais nous avons besoin de comprendre quel cadre familial vous formiez avec le couple Mokadem et leurs enfants. Donc il faudrait que vous nous éclairiez sur la nature exacte de votre relation avec Bouchaïb Mokadem. On vous écoute. Ben écoutez, c'est simple, même si je reconnais que ça peut paraître singulier. Bouchaïb est mon fils adoptif. J'étais ami avec son frère au Maroc, et comme Bouchaïb était un élève brillant à Agadir, sa mère et son frère m'ont demandé de l'aider. Voilà. D'accord. Nous avons cru comprendre que vous viviez dans la même maison qu'eux. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Vous savez, je travaille beaucoup, je dormais 3 nuits par semaine dans cette maison. Mais vous savez, je me considère être le père de Bouchaïb, et je considérais ses enfants comme mes propres petits-enfants. Est-il vrai que vous étiez l'employeur de Bouchaïb Mokadem? Oui. C'était mon secrétaire médical et aussi mon chauffeur. Il confirme par ailleurs qu'effectivement, il payait tout. Il a notamment payé tous les frais de leur mariage. La famille Lhermitte n'a pas déboursé 1 centime. Oui, je les tenais à bout de bras. Mais vous noterez que Geneviève ne travaillait pas, hein? Elle avait été prof dans un collège difficile. Un jour, elle s'est fait agresser par un élève. Ça a été fini. Elle s'est mise en arrêt maladie. Elle les a enchaînés. Tout ça pour dire qu'il fallait que je les aide. On apprendra plus tard que c'est lui qui a délivré la plupart des arrêts maladie. N'était-ce pas une façon de l'enfermer chez elle? Monsieur Scar, voilà ce que Madame Lhermitte a déclaré à votre sujet. Nous formions un ménage à 3. Michel est un homosexuel refoulé. Et plus loin, il s'est acheté une famille et des enfants. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Mais tout ça est absolument faux! Ça fait partie des délires de Madame Lhermitte. Moi, j'ai une vie sexuelle qui me satisfait amplement. Je pense que ça fait partie des élucubrations de Madame Lhermitte. À ce stade, évidemment, la juge se demande si elle doit impliquer d'une manière ou d'une autre Michel Scar dans ce dossier, comme étant en quelque sorte celui qui a remonté la pendule. Mais non, pour l'instant, en dehors des déclarations de l'accusé, il n'y a rien qui permette d'aller jusque-là. Et d'ailleurs, on a posé la question au père, à Bouchaïb. Votre femme, monsieur Mokadem, fait porter la responsabilité de son geste sur votre père adoptif. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah bon? Ça m'étonne, ça. J'ai jamais eu connaissance d'un quelconque ressentiment de ma femme à l'égard de Michel. Non. C'est intéressant, ça. Ça voudrait dire qu'elle aurait focalisé sur son beau-père, sur sa place, sur son rôle, toute seule, dans son coin, jour après jour, mois après mois, jusqu'à en devenir folle, au point de tuer ses enfants. À ce stade, c'est ça qui semble se dessiner. Alors justement, est-elle folle? La juge, bien sûr, a demandé une expertise psychiatrique. Au total, dans cette affaire, 7 psychiatres différents sont sollicités, qui vont hésiter longtemps. Au début, ils sont tentés de la déclarer folle, et donc irresponsable pénalement. Par exemple, quand elle leur dit « Michel, c'était le parrain. Il décidait tout. Financièrement, on dépendait totalement de lui.
La situation était devenue insupportable, vous comprenez? Je me sentais prise dans un étau. Je me sens plus libre en prison, vous voyez?
Ça, ça suggère qu'elle était hors d'elle au moment des faits, qu'elle était en état de démence. Mais voyez-vous, comme la Belgique sort à peine de l'affaire Dutroux, envoyer une tueuse d'enfants à l'hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison passerait assez mal. Donc les psychiatres hésitent. Et ils hésitent d'autant plus que par ailleurs, à certains moments, Geneviève tient devant eux des propos extrêmement raisonnables.
Je veux être jugé pour ce que j'ai fait. Je veux être puni. Je veux répondre devant la justice. Même si j'ai pas eu le choix, il faut que je sois puni.
Et là, elle n'est pas démente. Là, elle est lucide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les psys n'ont pas encore tranché, alors ils l'interrogent, elle l'interroge encore.
Madame, ce que je vous demande est très difficile, mais il faut en revenir au fait du 27 février. Comment avez-vous agi? Dans quel état étiez-vous? Moi, je suis allé chercher les enfants à l'école, à midi. Je les ai ramenés à la maison. Je les ai fait manger, je leur ai fait leur plat préféré, des tomates et du thon. Et ensuite, madame, comment les choses se sont-elles passées? J'ai mis les enfants devant la télé, je leur ai fait regarder une cassette vidéo. Là, j'ai préparé les deux enveloppes, celle avec les bijoux, puis celle avec le mot que j'ai porté chez Valérie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au champion. J'étais comme un automate. J'ai pris des couteaux dans un rayon, deux couteaux, et je les ai volés. J'ai préféré les voler plutôt que les acheter. Est-ce que vous pensez que vous étiez prise d'un coup de folie à ce moment-là? Non, c'est ce que j'avais envie de faire. C'était pas un coup de folie, c'était la seule solution. J'étais dans une impasse.
C'est très troublant. Le fait qu'elle ait écrit cette lettre, qu'elle ait mis ses bijoux dans une enveloppe pour les donner à sa copine Valérie, qu'elle ait volé les couteaux chez Champion, tout ça suggère une préméditation et absolument pas un coup de folie. Geneviève l'ermite n'est décidément pas une femme facile à décrypter. Mais il va falloir trancher, messieurs les psychiatres. Responsable ou irresponsable ? Ils tergiversent parce qu'ils sont face à une personnalité extrêmement complexe, qui souffle le chaud et le froid. Un coup, elle est complètement exaltée, et un coup, elle est parfaitement ancrée dans le réel, par exemple quand elle réclame d'être jugée et condamnée. Geneviève l'ermite est un cas. Et voici un autre exemple. On sait maintenant qu'au moins deux des enfants n'ont pas été égorgés dans leur lit, mais dans l'une des salles de bain. Or, dans cette salle de bain, on a retrouvé sur le miroir trois lettres écrites en lettres de sang. J-U-D.
Vous pouvez nous dire ce que signifient ces lettres, madame? J-U-D. Oh ben, je me souviens pas avoir écrit ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire.
Amnésie. Et ça, c'est très caractéristique des coups de folie. Mais à côté de ça, un autre jour, Geneviève évoque un mobile tout à fait rationnel.
Mon mari, il avait une double vie au Maroc. Il avait épousé une autre femme. On m'a même dit qu'il y avait un enfant avec cette femme. Je pensais qu'il allait me quitter. Je pensais qu'il allait m'abandonner ici en Belgique et puis aller savoir s'il allait pas emmener les enfants. Ça, j'aurais pas pu le supporter.
On interroge Bouchaïb. A priori, c'est faux. Il n'y avait pas d'autre femme. Il n'y avait pas d'autre enfant. Geneviève a psychoté. Elle a inventé quelque chose qui n'existait pas. Là-dessus, on découvre qu'avant le drame, Geneviève l'ermite consultait un psychiatre. Elle était suivie. Et ce psychiatre, plus on s'approche des faits, plus elle le voit et plus elle lui écrit. Elle lui a écrit des lettres qui sont versées au dossier d'enquête. Très intéressantes, ces lettres. « Docteur, j'ai peur de sortir de mon lit. Docteur, je suis bloqué au bras gauche et à la poitrine. Docteur, je ne veux pas croire en un avenir meilleur. Je suis dans une impasse pour toujours. » Docteur, j'ai des idées noires, suicidaires. Docteur, Je vais prendre les enfants avec moi. » Quelques semaines avant le drame, Geneviève raconte même à son psychiatre qu'elle est allée dans un magasin et qu'elle a caressé la lame d'un couteau. Elle lui a dit que le couteau l'avait fascinée. Elle était en dépression profonde, elle était au fond du trou, pathologique. On y revient. Mais ce qu'on découvre surtout, c'est que les problèmes de Geneviève sont bien antérieurs à sa rencontre avec son mari, bien antérieurs à l'arrivée du docteur Scar dans leur vie. Geneviève voyait des psys depuis toute petite, car elle avait, dit-elle, des relations très complexes avec ses parents, qu'elle décrivait comme des monstres. Sa sœur Catherine vient dire
« Nos parents nous ont maltraités. Toute notre enfance, ils nous ont dit, à l'une comme à l'autre, qu'on était moche, qu'on était conne. Ils nous rabaissaient tout le temps. »
On va donc interroger le père. Il dément absolument.
« C'est faux. Nous n'avons jamais rabaissé ni Catherine ni Geneviève. Nous leur donnions une éducation un peu stricte, certes, mais rien de plus. »
Et on apprend à cette occasion que Geneviève, au lycée, après une déception amoureuse, a déjà fait une tentative de suicide. Et on découvre aussi qu'elle a eu un parcours scolaire très chaotique. Elle a redoublé sa quatrième et quadruplé sa classe de troisième. Donc, elle n'allait pas bien, bien avant qu'elle ne tombe dans les pattes de son beau-père. Elle dit que Michel Scar est à l'origine de tous ses problèmes. C'est faux. Alors maintenant, messieurs les psychiatres, maintenant c'est à vous de trancher. Folle ou pas folle? Responsable ou irresponsable? Au moment de prendre leur décision, les psys se concertent. On sait qu'au début, 5 d'entre eux sont tentés de la déclarer irresponsable. Mais les 2 autres font entendre des arguments qui se tiennent.
Mais enfin, cette femme a tué ses 5 enfants et elle demande à être jugée. Alors, chers confrères, ne lui enlevez pas ce droit.
Et donc, après 1000 tergiversations, les psychiatres déclarent Geneviève l'ermite responsable de ses actes. Elle voulait être jugée, elle voulait payer, elle sera jugée et elle va payer. Pour un massacre dont on a maintenant une description très précise, une description glaçante. Au cours d'une reconstitution, Geneviève l'ermite a refait un par un tous les gestes. Elle commence par tuer Nina, 8 ans. Elle l'étrangle, puis elle l'égorge. Elle lave le couteau, elle se lave les mains et elle se lave le visage. Puis elle va chercher Mehdi, 4 ans. Elle l'assoit sur le bord de son lit. Elle l'étrangle d'une main et attrape de l'autre le couteau pour l'égorger. Et à nouveau, elle rince le couteau, elle se lave les mains et le visage. Puis elle appelle Myriam, 10 ans.
Viens, j'ai une surprise pour toi.
Elle l'installe sur une chaise, elle lui bande les yeux comme pour un jeu, et elle lui fracasse une plaque de marbre sur la tête. Bim! Et la petite, encore consciente, crie.
Arrête, maman! Arrête!
Elle attrape le couteau et elle l'égorge, et elle va laver son couteau, ses mains et son visage. Et ensuite, elle passe à Nora, 12 ans. Elle la fait venir dans la salle de bain du 2e étage et elle lui dit
« Pardonne-moi, Nora !»
La petite, en voyant le couteau, se défend. Elle se met sur elle à califourchon et elle l'égorge. Et en trempant son doigt dans la plaie de sa fille, elle écrit les 3 lettres énigmatiques sur le miroir. J-U-D. Rinçage du couteau, lavage de main. Elle appelle enfin sa fille aînée, Yasmine, 14 ans.
« Viens !» Tes frères et sœurs t'ont fait une surprise.
Yasmine arrive.
Tes frères et sœurs t'ont fait un cadeau. Il est sous le bureau, regarde.
Yasmine se penche. Sa mère attrape le couteau. Yasmine voit le couteau. Elles se débattent toutes les deux pendant 10 minutes. 10 minutes. Et à la fin, Geneviève l'égorge. Ensuite, elle traîne les corps, un par un, jusqu'à leur lit. Et elle pose un nounours à côté de leur tête, dans chacun des lits. Elle s'assoit à une table, elle pose le manche du couteau sur la table, la lame en direction de son cœur, et elle tombe sur le couteau. Le couteau perfore le poumon, mais pas le cœur, ça se joue à quelques centimètres. Voilà pour les faits pour lesquels Geneviève l'ermite sera donc jugée. Le procès s'ouvre un peu moins de 2 ans après le drame devant la cour d'assises du Wallon-Brabant. Il est marqué bien sûr par le récit des 5 meurtres par Geneviève l'ermite elle-même. Elle y raconte qu'elle a entendu une voix dans sa tête qui lui a dit « Ça y est, la machine est en route ». Alors en larmes, elle est incapable d'expliquer la suite.
« Ce que j'ai fait, c'est l'opposé de ce que je pensais. Les enfants étaient le moteur de ma vie. Je me suis donné à 200% pour eux. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. »
Sommée de raconter les meurtres un par un, Geneviève décrit des scènes absolument insoutenables.
Mehdi, son visage est devenu tout mauve quand je l'étranglais. Il me donnait des coups de pied, il criait « Maman ! Maman !» Myriam, quand elle était par terre, c'était horrible. Il y avait du sang partout, il y en avait sur les murs, il y en avait sur le plafond. Ils ont dû avoir mal. Ils ont dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman ?»
Est-ce que vous avez pleuré, madame, au moment de commettre chacun de ces meurtres ?
Non. Non, j'ai pas pleuré.
Elle parle aussi du docteur Scar.
J'en avais assez de cette vie avec Scar. On pouvait pas faire de remarques. Il respectait pas les règles d'hygiène, pas non plus les règles de pudeur. C'était un vrai boulet. Il n'avait pas de personnalité. Combien de fois est-ce que j'ai dit à mon mari, il n'a rien voulu entendre. Il voulait pas se séparer de cet homme. C'était son protecteur.
On projette sur grand écran les images de la scène de crime. Les 5 petits corps dans leur lit. Elle les regarde. Elle ne manifeste aucune émotion. Le docteur Scar est appelé à la barre, bien sûr. Il raconte qu'il est stérile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, que grâce à Bouchaïb, il a eu enfin un fils et ensuite des petits-enfants. Il dit qu'il les considérait comme ses petits-enfants. Après 7 jours de procès, les psychiatres qui avaient tant tergiversé font une légère marche arrière.
L'accusé était au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental qui la rendait incapable du contrôle de ses actions.
Trop tard, ils l'ont déclaré responsable. Les avocats de Geneviève plaident une dernière fois le coup de folie. Il réclame l'acquittement et son internement en psychiatrie, mais les jurés, horrifiés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, sont implacables. Le vendredi 19 décembre 2008, ils condamnent Geneviève à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle se lève.
Ma peine, je m'en fous complètement. Toute ma vie, je serai emmurée dans mon chagrin. J'aurai toujours du mal à me sentir vivante. Toujours.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.